Vous êtes sur RTL.
12h30. RTL.
Ma vie est une erreur. Je devais être photographe.
Sous un grand arbre, j'ai poussé.
J'ai découvert un jardin, des arbres extraordinaires, des vieux marronniers.
Une sorte de vieux marronnier.
J'ai décidé de ne pas le quitter. Bien des années plus tard, je suis toujours en place.
Au centre d'une cour carrée.
Quand on jardine, on ne jardine pas pour soi. On jardine pour les autres et pour les générations futures.
Sous mon arbre, je me balance.
Le journal inattendu.
Si vous avez envie d'avoir un jardin qui ait une âme, un jardin dans lequel il fait bon vivre, alors laissez faire la nature, accompagnez-la et cessez de vouloir à tout prix la contraindre.
12h30, 13h30.
Moi je suis jardinier, le nôtre, André le nôtre, hey, c'est quand même pas de la rigolade, était jardinier du roi. Les jardiniers à Versailles ont toujours gardé leurs titres royaux. Je suis donc jardinier du roi.
RTL, le journal inattendu se promène dans les jardins du Roi Soleil avec Alain Baraton et Vincent Parisot.
Bonjour Alain Baraton.
Bonjour.
Jardinier du roi, mais aussi rédacteur en chef de ce journal inattendu. Merci d'avoir abandonné pour une heure votre grand terrain de jeu du parc du château de Versailles, qui s'ouvre de nouveau au public à partir d'aujourd'hui et sort donc de presque 3 mois de confinement. Vous nous direz comment vous l'avez vécu, ce que vous avez vu, entendu. En tout cas, quel bonheur pour tous les visiteurs de revenir dans ce parc. On sera d'ailleurs sur place pour les infos. Mais on va aussi se promener dans la ville, avec à la main votre dernier livre, Mes jardins de Paris, tous ces espaces verts parisiens que vous avez recensés et que vous présentez, décrivez avec leur lot d'anecdotes croustillantes ou historiques. C'est votre marque de fabrique, évidemment. Et croyez-moi, on va en profiter avec vous pendant cette heure. On va se promener dans le parc de Versailles, dont vous êtes donc le grand jardinier depuis près de 40 ans. On va se régaler, accueillir votre invitée Chantal Colle-Dumont, la directrice du Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire. Enfin, on va respirer. Ça sent déjà l'herbe fraîchement coupée, tous ces parfums délicieux du printemps. Mais avant de démarrer les infos que vous allez pouvoir commenter, il faut, cher Alain Baraton, vous tirer le portrait.
Eh bien oui, ma vie est une erreur, voyez-vous, une erreur. Je suis le 5e d'une famille de 7 enfants. J'ai demandé à ma maman combien d'enfants aurait-elle eu si de son temps la pilule avait existé. Elle m'a dit 2, 3, pas au-delà. Ouais. Je n'ai même pas été conçu par amour, j'ai été conçu par manque de pilule. Eh bien, la même chose pour mon métier. Moi, je voulais être photographe. Ouais. J'ai débuté à Versailles comme caissier, puis comme jardinier. Et j'ai tout de suite trouvé que mes supérieurs étaient moches et incompétents. Et vieux. Et oui, quand on a 19 ans, j'étais en bas de l'échelle. Tous ceux qui étaient au-dessus étaient forcément incompétents et vieux.
Et résultat, à 25 ans, vous étiez en haut de l'échelle.
Oui, mais résultat, 40 ans plus tard, tous ceux qui viennent me voir maintenant dans mon bureau me regardent exactement comme moi-même. Je regardais mes patrons à l'époque et ça me déplaît beaucoup. Mais je voudrais simplement conclure par une phrase. Ce matin, en venant vous retrouver ici même, dans vos studios, j'ai croisé les visiteurs qui découvraient le parc de Versailles. J'ai vu des sourires et le plus beau remerciement qu'un jardinier peut recevoir, c'est un sourire.
Vous avez compris, on ne va pas s'ennuyer dans le journal inattendu d'Alain Baraton qui commence évidemment par l'actualité de ce samedi 6 juin avec à la une des vacances malgré la crise sanitaire. Pour 1 million d'enfants, ils vont profiter du dispositif gouvernemental dévoilé ce matin, des vacances apprenantes, mais aussi la colo pour 250 000 jeunes issus des quartiers prioritaires. Un nouveau signe du déconfinement, vous l'avez dit, pour ce premier week-end sans limitation de déplacement, c'est Versailles qui accueille de nouveau le public après 82 jours de fermeture. On sera sur place, évidemment, et vous pourrez commenter tout cela, Alain Baraton. La mort du fondateur d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, tué par l'armée française au nord du Mali. Il était le mentor de nombreux groupes djihadistes au Sahel. 6 juin 2020, 76e anniversaire du débarquement allié en Normandie, cérémonie minimaliste, évidemment, en comité restreint en raison de l'épidémie. Et puis, les manifestations contre les violences policières interdites aujourd'hui à Paris, notamment l'une d'elles qui était prévue à 15h devant l'ambassade des États-Unis. Un autre appel a été lancé pour un rassemblement au Champ de Mars. Il n'est pas autorisé, précise la préfecture de police. Côté ciel, c'est assez instable, Valérie Quintin.
Oui, on a surtout des pluies entre le Bordelais, l'Alsace et le Jura cet après-midi. C'est des pluies qui vont vraiment stagner, qui vont rester là. Ce ne sera pas des sauts d'eau, hein, simplement quelques averses. De part et d'autre, on peut espérer des éclaircies. Les plus belles, bien sûr, près de la Méditerranée et dans la vallée du Rhône. Et puis à l'arrière, sur le nord, la Picardie, l'Île-de-France, les Ardennes ou encore la Normandie et la Bretagne. Il y aura des éclaircies, mais entrecoupées de quelques averses. Les températures, toujours. toujours un peu juste. 16 degrés à Rouen et Limoges aujourd'hui, 17 à Metz et à Dijon, 18 degrés à Rennes, 20 degrés à Paris, 21 à Montauban, 24 pour Ajaccio et Grenoble, et c'est Nîmes qui culmine à 27 degrés.
Vous avez déjà présenté la météo, Alain Baraton ?
Jamais.
Eh bien, ça sera une première à 13h.
C'est un plaisir.
Le journal inattendu sur RTL.
Le gouvernement a donc décidé de mettre la main à la poche pour accompagner cet été les jeunes privés de vacances en raison de la crise sanitaire. Le dispositif, qui devrait coûter environ 200 millions d'euros, a été dévoilé. L'objectif, c'est de permettre à ceux qui ont décroché de rattraper leur retard. Et puis plus généralement, environ 1 million d'enfants de pouvoir s'évader un peu à l'occasion de vacances qualifiées d'apprenante, Jérôme Florin.
Oui, apprenante, c'est le terme à la mode. Dans le détail, 400 000 enfants et ados pourront être accueillis dans des écoles ouvertes, cours le matin, activités l'après-midi, de la primaire au lycée. Il faudra pour ça 25 000 enseignants et animateurs. Jean-Michel Blanquer dit d'ailleurs compter sur la mobilisation des profs. Des écoles ouvertes donc, et une aide aux colonies de vacances également. Le tout donc entièrement pris en charge par l'État. Gabriel Attal était invité ce matin sur RTL. Il est le secrétaire d'État à la jeunesse.
Oui, c'est pris en charge à 100%. Les familles n'auront rien à payer. C'est très important que la possibilité pour les enfants de partir en vacances soit très large cet été, notamment, encore une fois, pour des enfants qui sont restés confinés, parfois dans des situations familiales difficiles ou tout simplement dans des appartements très exigus.
Des chèques vacances seront offerts aux familles des travailleurs qui ont été en première ligne pendant la crise, éboueurs, caissiers ou aussi soignants, bien sûr. Chèque de 300 euros, 300 000 familles concernées, un cadeau financé par l'État et les régions. Et puis, dernier détail, pour les colonies de vacances, il manque 10 000 animateurs. Mais là encore, pas question de lésiner sur la dépense. L'État versera 30 millions d'euros pour payer leur formation BAFA.
Merci Jérôme Florin. Vous avez accueilli des fois dans le parc de Versailles des colonies
Oui, bien sûr, tous les ans, le Secours Populaire emmène des centaines d'enfants déco à Versailles. Il n'est pas rare que nous prêtions nos salles, que nous permettions à des jeunes gens de quartiers difficiles découvrir l'art de Versailles, la peinture, la sculpture et bien sûr le jardin.
J'imagine que c'est passionnant de les voir effectivement dans un univers auquel ils ne sont pas habitués.
Oui, c'est Malraux qui avait décidé de la création du ministère de la Culture et qui disait que c'était pour mettre la culture à la portée du plus grand nombre. Mais à Versailles, nous le faisons, nous ouvrons grand nos portes et nos bras.
Parmi les informations de la journée, l'application Stop Covid. Vous ne l'avez pas encore téléchargée sur votre téléphone.
Je ne la téléchargerai pas, je suis très mauvais avec les techniques modernes.
Et ben en tout cas, elle commence à prendre de l'ampleur puisqu'on a passé le cap du million d'utilisateurs. Information du secrétaire d'État au numérique, Cédric O. Alors c'est important puisque l'efficacité de l'application dépend directement, évidemment, du nombre de personnes qui l'utilisent. On a appris ce matin la mort d'un adolescent de 16 ans la nuit dernière, tué par balle à Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis. La victime n'était pas connu de la justice et pour l'instant aucune idée du motif. Et puis ce samedi devrait être une nouvelle journée de manifestation contre les inégalités raciales, plus de 10 jours après la mort de George Floyd à Minneapolis. Nouvelle journée de rassemblement aux États-Unis, notamment à New York, Miami, Washington. En Australie, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à travers le pays, notamment à Sydney. Et puis des rassemblements sont prévus en France, à Lille, à Marseille, à Limoges, mais surtout à Paris. Le préfet de police les a interdits dans la capitale. Décision prise dès hier pour un rassemblement prévu à 15h devant l'ambassade des États-Unis. Il est interdit, mais également après un autre appel à manifester à 17h sur l'esplanade du Champ de Mars. Des interdictions justifiées par l'urgence sanitaire, par l'état d'urgence sanitaire, selon Didier Lallemand, le préfet de police. Ce qui se passe aujourd'hui, depuis plusieurs jours, dans le monde entier, vous frappe.
C'est d'un côté dramatique pour la situation, bien entendu, et encourageant de voir que autant de personnes se mobilisent pour que cessent des comportements inacceptables. Dans mon livre, je parle et je rends hommage à Martin Luther King. Ouais. Martin Luther King a dit cette phrase merveilleuse: une loi ne pourra jamais obliger quelqu'un à m'aimer, mais il est important qu'elle n'autorise personne à me lyncher. Ouais. J'aime bien cette phrase. Donc, effectivement, il est important que nous nous mobilisions pour que tout ce qui est racisme, antisémitisme n'ait plus sa place dans la société.
L'actualité, c'est aussi le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'Algérien Abdelmalek Droukdal, tué par les forces françaises au nord du Mali, près de la frontière algérienne. Plusieurs de ses proches ont également été tués. Opération militaire réalisée en milieu de semaine, annoncée hier soir par Florence Parly, la ministre des Armées. Écoutez ce qu'en dit le général Dominique Trinquant, l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.
Ça laisse des questions sur lesquelles je n'ai pas la réponse, sur la contribution éventuelle du renseignement algérien à cette opération. Je dis bien que c'est une supposition que je fais.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a eu un changement de régime, du moins de tête de régime en Algérie, et que la coopération internationale semble être un des soucis de ce nouveau pouvoir. Et donc, il n'est pas impossible qu'il ait décidé maintenant de lutter contre des chefs djihadistes qui avaient trouvé refuge en Algérie et qui... travaillait en fait à cheval entre la Tunisie, l'Algérie et le Mali.
Voilà, le général Trinquant qui est aujourd'hui consultant sur les questions de défense, et vous l'avez entendu qui laisse entendre que les services secrets algériens ont joué un rôle dans cette opération. On marque une courte pause dans le journal inattendu d'Alain Baraton. Ensuite, on reprend l'info, à commencer par ce D-Day version Covid.
Vous. Ils vont plus loin. Le journal inattendu d'Alain Baraton avec Vincent Parisot sur RTL.
Alors nous sommes le 6 juin, Alain Baraton, évidemment, en temps normal, cet anniversaire du débarquement allié en Normandie est célébré en grande pompe avec la présence d'anciens combattants, d'un large public, mais ce 76e anniversaire se déroule dans le contexte particulier de la crise sanitaire, résultat des cérémonies en tout petit comité, comme celle qui s'est déroulée ce matin à Omaha Beach, Omaha la Sanglante. En présence d'un vétéran quand même, un vétéran de 95 ans, mais il est le seul présent pour ces commémorations, Julien Caillard.
Oui, Charles Norman Shee, impressionnant dans son costume noir constellé de médailles. Cet Amérindien infirmier dans la première division d'infanterie américaine n'avait que 19 ans lorsqu'il a débarqué ici à Omaha Beach. Et ce matin, c'est à Edward Borozevich, l'un de ses camarades tombé sur cette plage, que Charles Norman Shee s'est adressé. Je suis là pour rendre hommage à l'un de mes amis, a dit le vétéran. Edward, tu étais né aux États-Unis dans le New Jersey 2 ou 3 heures après le débarquement. Je t'ai trouvé sur le sable, grièvement blessé. J'ai essayé de te soigner, mais je ne pouvais malheureusement pas t'aider, alors je suis resté à côté de toi et je t'ai accompagné jusqu'à ton dernier souffle. Tu étais un homme courageux, Edouard. Je ne t'oublierai jamais. Charles Norman Shee, dont les mots ont ému les quelques anonymes parvenus à braver les règles pour assister à cette cérémonie. Christophe voulait absolument que ses enfants voient le vétéran.
Je pense qu'il était nécessaire qu'on soit présent. Je prends mes enfants par exemple, 20 ans, il fallait qu'ils se rendent compte. C'est simplement un petit devoir de mémoire.
Un devoir de mémoire contrarié par la crise sanitaire, mais plus que jamais vivant ce matin à Omaha Beach.
Reportage signé Julien Caillard. Ça vous touche, ça vous émeut d'entendre encore un survivant
Énormément. Les années n'altérant rien l'émotion. Ouais. Et que l'on aille à Verdun ou à Omaha Beach, il y a toujours cette tristesse pour ceux qui ont perdu la vie, leur vie pour notre liberté. Ouais. Et je ne peux pas écouter ce vétéran sans avoir une très profonde émotion.
Alors en tout cas, merci Alain Baraton d'être avec nous en studio. Au moment où le public revient chez vous, le parc et le château accueillent de nouveau depuis ce matin les visiteurs dont il était privé depuis 82 jours. La fermeture, d'ailleurs, on parlait du débarquement, la fermeture, c'était une première depuis la Seconde Guerre mondiale.
Oui, le Versailles n'est jamais fermé, ou exceptionnellement. Et je vous le disais il y a un instant, en arrivant ce matin, j'ai croisé les premiers visiteurs. Ouais. C'était un bonheur, on voyait des familles complètes. La gamine de quelques années qui avait sorti la trottinette, l'épouse qui courait aux côtés de son mari, c'était que du bonheur. D'où l'importance de ces jardins. Un jardin, même celui de Versailles, ce ne sont pas que des plantes agencées, c'est une âme, c'est une histoire, c'est quelque chose de fort.
Ah bah on va vérifier ça avec Raphaël Vantin, puisque Raphaël, vous êtes sur place avec les premiers visiteurs.
Florian et Anthony ouvrent de grands yeux, incrédules. Avec leurs parents, masque sur la bouche, ils s'arrêtent quelques instants dans la cour pavée de Versailles. Au loin, dans le passé, résonne le claquement des fers à chevaux, mais aussi le silence tout aussi historique de 80 jours de fermeture pendant le confinement. Les deux garçons goûtent avec leurs yeux la magie des lieux.
C'est émouvant, parce qu'on sait que Louis XIV a vécu ici.
Les chambres. J'aimerais bien y voir à quoi ça ressemble, la chambre de Louis XIV.
Le papa prend quelques photos pour immortaliser le moment. L'occasion est symbolique pour montrer Versailles à ses enfants.
C'était sûrement l'opportunité pour à la fois qu'il y ait moins de visiteurs et puis pour montrer que c'est le début d'une nouvelle ère qui recommence pour notre vie à tous.
La visite de Versailles se fait masquée, il faut réserver ses billets, ce qui permet d'éviter les encombrements dans les salles où le cheminement est plus lent que d'habitude. Et c'est ça qui surprend Laurent Salomé, le directeur du musée de Versailles. Cela rend la visite du château totalement nouvelle.
Les conditions de visite spéciales qu'on a mises en place, qui sont contraignantes, se révèlent très intéressantes et font voir le château autrement. Je sors à l'instant de la galerie des batailles. Il y a un long cheminement le long de cette galerie qui fait sentir beaucoup plus la longueur, la puissance de l'architecture. Et puis dans la galerie des glaces, dans les grands appartements, il y a une sensation qu'on a quand même assez rarement.
Dehors, dans l'extraordinaire jardin à la française, cher à André Lenôtre, il y a une petite heure, les fontaines ont repris leur immense jet. L'eau et la vie reprennent leur cours à Versailles.
Merci Raphaël Vantard. Les fontaines, ça c'est évidemment très important.
C'est très important, mais un petit commentaire si vous le permettez. Quand on voit les Français, leur attachement à Versailles, je me demande si finalement ils ne seraient pas encore un petit peu royalistes.
Oui, il y a un petit peu de nostalgie, ça c'est possible. On entendait que le château se visite masqué, on n'a pas besoin du masque, c'est pas obligatoire dans le parc.
Non, il faut se comporter intelligemment, bien évidemment. On peut se promener sans masque en gardant les distances, bien évidemment. Mais c'est l'occasion de redécouvrir le château et le jardin différemment, de prendre son temps. Versailles est un jardin qui recèle des surprises. Les bosquets sont merveilleux. Le hameau de la Reine est enchanteur. Le parterre africain est sublime.
Alors, le parterre africain, ça, c'est nouveau. Alors, vous avez fait venir des plantes d'Afrique, c'est ça ?
Alors, pas vraiment. C'est une idée de Catherine Pégard, la présidente, de célébrer l'amitié franco-africaine. Manifestation qui va être décalée dans le temps à cause du Covid-19. Et une équipe d'Italiens ont décidé de créer un parterre qui symbolise les paysages de l'Afrique, de la steppe, des régions désertiques, à la forêt luxuriante. Alors, ces Italiens, ils ont pour nom Giovanni, ils ont pour nom Elena, Fulvia, Roberto, Fabiola. Ils sont extraordinaires et ils ont fait une chose absolument exceptionnelle. C'est un parterre qui nous coupe vraiment les jambes. Nous, jardiniers depuis si longtemps, nous sommes étonnés de tant d'audace et de tant de beauté. Et
alors, c'est vrai qu'ils écoutent ça Toute la journée?
Toute la journée, c'est épouvantable. Je n'ai plus que cette chanson dans la tête.
Et bon, les saluts s'ils nous écoutent avec Felicita. Dites Alain Baraton, à quoi ressemblait le parc pendant le confinement? J'imagine qu'au bout de quelques jours, vous avez dû voir des choses inhabituelles.
Les animaux. Nous avons été surpris déjà du nombre de lapins, du nombre de renards. Je peux vous dire que les renards d'eau sont tous en pleine forme. Les oies sauvages qui ont pris leurs habitudes sur les pelouses du domaine de Marie-Antoinette. Les cygnes qui ont donné naissance à des petits. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils vont cet après-midi du côté du Grand Canal, ils vont croiser un couple de cygnes et leurs 5 petits. Les rapaces sont revenus. Une oie d'Égypte, que fait-elle ici? Je ne sais pas. Elle s'est posée il y a quelques jours. Les animaux comme ceux de la ferme, qui se promènent presque librement. Et puis cette herbe qui est apparue, les pâquerettes, les coquelicots, c'est merveilleux. Le parc a été d'une beauté incroyable, beau mais triste. Parce qu'un parc, il est fait pour être visité. Alors aujourd'hui, le parc est réouvert et nous en sommes très heureux. Et on découvre encore une petite partie de ce parc, je dirais presque abandonné. Si l'on va vers le fond du domaine, il y a encore des allées merveilleuses à découvrir avec encore de grandes herbes.
Ah donc, aller vers le fond du domaine, c'est peut-être un petit peu moins taillé au cordeau.
Oui, mais c'est peut-être l'occasion aussi de faire un petit peu de marche. Ça fera le plus grand bien, surtout après 2 mois de confinement.
C'est magnifique, on vous écouterait pendant des heures. Mais de la marche, on va en faire dans un instant dans la capitale, Mes Jardins de Paris. C'est votre dernier ouvrage, Alain Baraton, publié chez Grasset, où vous recensez plus d'une centaine, je crois que j'en ai 146.
Tout à fait.
146 squares, jardins, parcs de la capitale, avec évidemment, à chaque fois, puisque c'est Alain Baraton, son lot d'anecdotes. A tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL, avec Alain Baraton et Vincent Parizeau.
Déjeuner de Bretagne, aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France.
Ma France, Jean Ferrat, hein, de plaines en forêt, de vallons en collines. Vous avez tenu à cette chanson.
L'une des plus belles chansons. J'adore Jean Ferrat, je connais tout Jean Ferrat. J'ai eu la
vous
chance.
Vous connaissez tout Jean Ferrat parce qu'il a quand même une.
Je suis incollable sur Jean Ferrat. Ouais. J'ai eu la chance de le rencontrer dans les jardins de Versailles et j'ignorais que petit il venait s'y promener. Et j'ai une passion pour cet homme qui a chanté la France justement avec des mots extraordinaires. Quand on écoute aujourd'hui la chanson que l'on vient d'entendre, quand on écoute Nuits et Brouillards, quand on écoute ce répertoire, J'en ai presque les larmes aux yeux. Il est, à mes yeux, le plus grand compositeur ou l'un des plus grands compositeurs français de tous les temps.
Jean Ferrat, vous êtes incollable, Alain Baraton, sur Jean Ferrat. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. En tout cas, vous publiez « Mes jardins de Paris » chez Grasset, pas moins de 146 squares, jardins, parcs de la capitale, du plus petit au plus grand,
oui,
du plus remarquable au plus insignifiant. Il y en a parfois, mais qui n'ont pas pour autant...
Ils ont leur importance.
Exactement. Avec à chaque fois une ouverture sur la personnalité qui lui a donné son nom ou sur les célébrités qui avaient leurs habitudes. Je crois que l'idée du livre vous est venue lors d'un passage dans le square Viviani.
Oui.
Ce tout petit jardin quand même sur les quais près de Notre-Dame.
Mais quel jardin ! Il a une vue qui donne justement sur la cathédrale.
Ouais.
Et dans ce jardin vit au milieu l'arbre le plus vieux de Paris, 400 ans, un robinia planté par Monsieur Robin en personne, jardinier d'Henri IV. Imaginez cet arbre, il a résisté à l'urbanisation, il est là et il continue de vivre. Mmh. Et j'étais très heureux de découvrir ce square parce qu'il s'appelle Viviani. Et je pensais naïvement que c'était le nom d'un astronome italien du XVIIe siècle.
Mmh.
L'idée de donner le nom d'un jardin à un homme qui parle aux étoiles, je trouvais ça grandiose.
Oui.
Et puis j'ai découvert l'horreur absolue. En fait, c'est pas du tout le même.
Non.
Le Viviani en question est l'inventeur de l'impôt sur le revenu.
Oui. On le remercie bien fort.
Ah bah oui, mais toujours est-il qu'il a donné son nom à un jardin,
oui,
et le vieux robinier vit toujours.
Mais il vit vraiment toujours, 4 siècles
Bien sûr, il est étayé par une poutre en béton. La ville de Paris, les jardiniers. J'en profite d'ailleurs pour saluer mes collègues,
oui,
de la ville de Paris qui font un travail vraiment remarquable, vraiment admirable. Et ils prennent soin de ce vieux robinier. Alors, il n'est pas tout jeune, vous vous en doutez.
Oui.
Il a quelques signes de faiblesse, mais il est là et il continue tous les ans de reproduire des feuilles.
Des jardins qui sont classés par thème. Alors, il y a les jardins d'auteurs, les jardins résistants, les jardins féministes, les jardins du pouvoir. Il y a aussi les jardins maudits. Alors, il y a le parc Pont-Souris, le parc des Buttes-Chaumont, le square Louis XVI... il a été enterré,
tout
comme Marie-Antoinette. On a un peu oublié parce que on imaginait que les restes étaient à Saint-Denis,
oui,
mais non.
J'aurais pas le dire parce que les gens qui s'y promènent en ce moment, ils n'imaginent pas qu'en fait ils sont en train de se promener sur un cimetière.
Ouais.
Et en fait, on a jeté quantité de malheureux dans ce square, le fameux square dont vous venez de parler, quantité également de personnes guillotinées à la Révolution. Sauf qu'un passionné de la monarchie avait observé l'emplacement exact où les souverains avaient été enterrés, et sitôt la Révolution et l'Empire revenu aux affaires, eh bien on a déterré le corps de Marie-Antoinette et de Louis XVI pour les enterrer avec plus de dignité. Mais les autres jardins, les Buttes-Chaumont,
ouais,
Montsouris, c'était des lieux de mort, c'était des lieux où l'on enterrait à la va-vite, où il y avait des brigands, on s'est battu, on a fusillé, c'était des lieux de décharge. Le parc Georges Brassens,
ouais,
il y a moins d'un siècle, était un gigantesque abattoir où les habitants du quartier n'entendaient que le cri de terreur des chevaux, des vaches et des moutons. Et aujourd'hui, tous ces jardins contribue à faire de Paris une ville, j'allais dire, respirable et agréable. Et il y a quand même, il faut le souligner, 500 squares, parcs et jardins à Paris, comme quoi l'idée qu'il n'y a pas d'espace vert à Paris est un petit peu exagérée.
Bah oui, effectivement, quand on fait le compte avec vous dans ce livre. Tiens, parlons des femmes. D'ailleurs, vous notez que jusqu'en 1970, les femmes qui avaient donné leur nom à un espace vert parisien se comptaient sur les doigts des deux mains.
Oui.
10
Oui.
10 en tout et pour tout.
Tout à fait, je les cite. Et il est vrai qu'on a rarement donné des noms de jardins aux femmes. Alors, ce sont les femmes, je crois, les premières utilisatrices de ces lieux. Il y a un jardin que j'aime particulier qui rend hommage à Anne Frank.
Oui.
Et si j'aime
dans le 3e arrondissement.
Tout à fait.
C'est en plein cœur de Paris et il y a un marronnier à l'histoire extraordinaire planté en 2007.
Et oui, la malheureuse Anne Frank avait pour seule, j'allais dire, compagnie, excepté bien entendu le petit Peter,
ouais,
un marronnier qui, de ses fenêtres, de son lieu où elle se cachait à Amsterdam, eh bien lui parlait le rythme des saisons. Elle en parle d'ailleurs dans son livre. Quand ce marronnier a montré des signes de faiblesse, les jardiniers ont eu la bonne idée de récolter des marrons et de les faire germer. Et le marronnier qui aujourd'hui vit dans le square Anne Frank est un marron produit par le marronnier, témoin de la souffrance, de la déportation et de l'assassinat d'Anne Frank. C'est ce que j'aime dans les jardins. L'émotion qu'ils transmettent.
C'est celui qui vous procure le plus d'émotions.
Non, quantité d'autres.
Ouais.
Le jardin des plantes, vous l'ignorez certainement, mais l'homme qui a expertisé les victimes de Landru, avant de partir à la retraite, a été enterré les cendres contenues dans la gazinière au pied d'un seul pleureur. Les victimes de Landru reposent aujourd'hui encore dans le jardin des plantes. Et puis, il y a les jardins également qui permettent au nom de traverser le temps. Tino Rossi, nos grands-mères, étaient folles de cet homme. Le plus gros vendeur de disques de tous les temps. Il ne reste plus rien de Tino Rossi, sauf le petit Papa Noël et son jardin.
On l'écouterait pendant des heures. Faut marquer une pause, faire les infos dans un instant et retrouver l'invité d'Alain Baraton. On va aller à Chaumont-sur-Loire. A tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
On est avec Alain Baraton et on est très bien sur RTL.
Le journal inattendu d'Alain Baraton.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
L'actualité, c'est l'annonce de vacances malgré la crise sanitaire pour 1 million d'enfants qui vont profiter du dispositif gouvernemental dévoilé ce matin. Des vacances apprenantes, mais aussi des colos pour 250 000 jeunes issus des quartiers prioritaires. Une enveloppe de 200 millions d'euros a été débloquée. Nouveau signe du déconfinement pour ce premier week-end sans limitation de déplacement. Versailles accueille de nouveau le public après 82 jours de fermeture. On en parle, vous l'avez compris, aussi avec Alain Baraton. L'application Stop Covid commence à prendre de l'ampleur. Cette application de traçage de contacts contre le coronavirus a passé le cap du million d'utilisateurs. La mort du fondateur d'Acmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, tué par l'armée française au nord du Mali. Il est tellement tort de nombreux groupes djihadistes au Sahel. Les manifestations contre les violences policières interdites aujourd'hui à Paris, notamment l'une d'elles prévue à 15h devant l'ambassade des États-Unis. Une autre, un appel a été lancé pour un rassemblement au Champ de Mars, mais il n'est pas autorisé non plus, précise la préfecture. Et puis 6 juin 2020, 76e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Cérémonie minimaliste, sans public et en comité restreint en raison du Covid-19. Et puis alors la météo, là c'est à vous de jouer Alain Baraton, et Dieu sait que la météo c'est important pour un jardinier.
Eh bien oui, eh bien le temps restera très instable sur une grande partie du pays cet après-midi. Le soleil devrait se concentrer comme d'habitude d'ailleurs près de la Méditerranée, et entre deux averses, des éclaircies s'imposeront également dans le nord, l'Île-de-France, la Normandie ou encore la Bretagne. A contrario, le ciel sera très nuageux et les pluies fréquentes, mais bienvenue dans les jardins de l'Aquitaine aux Alpes et à l'Alsace. Les températures iront de 14 à 27 degrés de Guingamp à Avignon. Il fera 18 à Bordeaux, Nantes et dans les jardins de Versailles. Mmh. Oui, 18-19, parce qu'il y a un microclimat positif à Versailles.
Ah, on le sait trop peu. C'est vrai, il y a un bon microclimat.
Toujours doux en hiver et frais en été.
Est-ce que vous consultez les prévisions météo ou est-ce que vous regardez le ciel avant de savoir si vous allez arroser?
Je lève toujours la tête vers le ciel. Mmh. Rien ne remplace le point de vue du jardinier. L'humidité ambiante, la couleur du ciel. J'écoute la météo, bien entendu, mais rien ne remplace le regard dans le ciel.
Alain Baraton est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Mitch et sa souris sont à une boule frais, en train de se remonter à coups de perniflard. Tout à coup, le cocu débarque, va droit sur sa femme, sans dire un mot, mais il lui balance une paire de mandales à tuer un buff.
Quelqu'un l'avait prévenu ?
Le sable. Mitch, qui parle toujours trop, avait dit... Une fois dépanné, vous suivez mes traces jusqu'à Itboulfré. Petit ingénieur avait suivi les traces jusqu'au bout, jusqu'aux dunes. Là, c'était plus des traces de pas qu'il y avait. C'est aussi clair que si on y avait fait voir un plumard au mec.
Ça s'est terminé comment?
Après la tarte à sa bergère, le gars aurait bien continué à jouer les hommes. Mitch a bloqué la première pêche et lui a dit « Tu viens de brayer, gâche pas tes cartes. »
Et son mari n'a rien dit?
Oh, tu sais... Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.
Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 les écoutent.
C'est merveilleux, ouais. C'est du Michel Audiard, c'est grandiose.
100 000 $ au soleil, évidemment, réplique culte d'Audiard. Si vous avez fait ce choix, c'est aussi que vous-même, vous êtes quand même un beau bébé, à la carrure impressionnante. Quand vous dites quelque chose, on vous écoute.
Pas toujours, mais j'ai été longtemps chétif, d'où cette manière aujourd'hui de rire de cette excroissance abdominale.
Alors vous avez décidé, Alain Baraton, on la partage, hein, l'excroissance abdominale. Vous avez décidé d'inviter Chantal Collet-Dumont, la directrice du Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire, dans le Loir-et-Cher. Elle est avec nous dans un instant, mais avant cela, pourquoi ce choix? Pourquoi elle?
Voilà. C'est une femme exceptionnelle. Cette femme dirige depuis de très longues années le Festival international des jardins de Chaumont. Le Festival de Chaumont, ce ne sont pas que des jardins qu'on présente, ce ne sont pas que des jeunes et des moins jeunes qui créent des merveilles. C'est un laboratoire, c'est un lieu de rencontre, d'échange. Et cette femme talentueuse est capable effectivement de faire des miracles. Et je voulais vraiment cette année qu'elle puisse continuer son œuvre, car il s'agit bien d'une œuvre. Et cette femme fait honneur à la Corporation des jardiniers. C'est une femme, et je le dis, elle doit rougir en m'écoutant, une femme d'exception.
Quelle présentation! Bonjour Chantal Collot-Dumont.
Bonjour, je suis en effet rose, comme des roses de mon jardin.
Cette saison 2020 du Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire, elle s'est ouverte quand même le 19 mai dernier, malgré l'épidémie. Tout à l'heure, Alain Baraton nous parlait du parc du château pendant cette période du 15 mars au 19 mai. Comment vous l'avez vécu, vous, dans vos jardins de Chaumont-sur-Loire?
Je vivais seule sur le domaine, donc c'était magnifique, mais c'était paradoxalement extrêmement compliqué parce que, en général, pendant cette période, nous avons 80 personnes qui travaillent chaque jour en dehors de nos 18 jardiniers pour créer ces jardins du festival, puisque nous avons chaque année 30 nouveaux jardins. Mmh. Et là, à partir de la mi-mars, nous n'avions plus que 6 jardiniers et 10 personnes, puisque les conditions sanitaires exigeaient que nous soyons beaucoup moins nombreux. Mmh. Donc, ça a été une période
un petit peu difficile. Plus de 800 jardins créés depuis 1992, c'est ça? On peut toujours on peut tous les voir?
Alors non, les voir non, parce que on peut les voir en ligne, mais on change nos jardins chaque année. Les jardins du festival sont renouvelés. Oui. Et chaque année, on en a 30 nouveaux. Mais ils restent dans la mémoire des visiteurs en suspens. Et c'est ce qui fait que nous sommes un laboratoire, un observatoire, parce qu'il y a chaque année de nouveaux végétaux, de nouveaux matériaux, de nouveaux scénarios. Et Chaumont est un peu, oui, un observatoire des tendances du jardin grâce à tous ces jardins qui ont été créés.
Alors justement, le thème cette année, c'est Jardin de la Terre, retour à la Terre-Mère. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est retour à la nécessité de respecter cette terre qui nous a fait, qui est notre mère à tous finalement.
Oui, l'idée était de faire référence à ces figures mythiques, Gaïa en Grèce, Parvati en Inde. Partout, on parle de la terre-mère, de la terre nourricière. Oui. Et face au bouleversement climatique, à l'érosion de la biodiversité, à cet affaiblissement du lien entre l'homme et la nature, il y a deux attitudes possibles, soit le catastrophisme, la sidération, ou la recherche de solutions. Et à Chaumont-sur-Loire, on a demandé aux concepteurs qui viennent du monde entier de proposer des solutions pour retrouver une harmonie, un équilibre, une régénération dans cette relation avec la nature.
Vous y allez souvent au festival?
Je vais aller mercredi sur l'invitation de Chantal Collot-Dumont et l'occasion de rappeler que quand on parle de l'art des jardins, eh bien Chaumont en est la preuve. Le jardin n'est pas seulement une technique réservée aux oisifs ou retraités, c'est un art incroyable, l'art contemporain, l'art ancien, l'art classé, tout est dans le jardin. Et il est vrai que quand on découvre les jardins de Chaumont-sur-Loire, quand on les redécouvre, ils sont changeants, ils ne sont jamais les mêmes. Je ne sais plus depuis combien d'années, Chantal, ce festival existe, mais je crois qu'il n'y a pas deux éditions qui se ressemblent.
En effet, Alain, le festival a été créé en 1992. Nous avons cette année la 29e édition. Et c'est ce changement permanent, cette invention, cette créativité qui séduit le public. Les gens viennent ici pour piquer des idées, entre guillemets. C'était la formule du fondateur de ce festival. Et je pense qu'il contribue à entretenir le goût des jardins. Oui. C'est très important. 80% des gens vivent en ville. Et donc, pendant le confinement, ils ont encore eu davantage besoin de nature. Voilà, Nous avons besoin d'être liés au vivant.
Un véritable laboratoire, disiez-vous.
Un lieu d'exception avec vue extraordinaire.
Et si je viens les 19 et les 20 septembre, 19 et 20 septembre prochains, Chantal Collot-Dumont, ce sera une exposition-vente. Là, je peux acheter des plantes?
Alors, depuis l'année dernière, nous avons, avec des pépiniéristes particuliers qui ont des collections végétales spécialisées, inventé un nouvel événement qui permet à la fois d'acheter des végétaux d'exception et puis d'avoir des conseils de professionnels qui consacrent leur vie à la défense de cette biodiversité avec des végétaux de très très grande qualité.
Eh bien, on ira, on a hâte. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Ce festival est à l'image de Chantal Collot-Dumont, exceptionnel.
Merci beaucoup, Chantal Collot-Dumont. À très bientôt. J'ai l'impression qu'elle rougit un petit peu. Voyez.
C'est fait pour.
Allez, à tout de suite sur RTL. On est avec Alain Baraton.
Le journal inattendu d'Alain Baraton
avec Vincent Parisot sur RTL.
Une paella sans coquillage, un gigot sans ail, un escroc sans rosette, quelque chose qui déplaît à Dieu. Au temps de mes amours, je confectionnais la paella comme personne.
Ah, c'est un extrait d'Un singe en hiver. Encore Belmondo, hein. Vous encore, adorez Belmondo,
encore,
j'ai l'impression.
Encore toujours Belmondo avec Jean Gabin dans ce film.
Voilà, extraordinaire. Un singe en hiver d'Henri Verneuil. Un gigot sans ail, un escroc sans rosette, une paella sans coquillage, ça déplaît à Dieu. Mais un jardin sans pesticides, sans insecticides, ça plaît à Dieu, s'il existe, évidemment.
À Dieu et à la bête, à bon Dieu, à la coccinelle, bien évidemment. Ouais. En 1999, il y a une tempête qui détruit Versailles aux trois quarts. Il est décidé alors de ne plus mettre de pesticides dans les jardins. Plus de désherbants chimiques, plus d'insecticides, plus de fongicides, plus rien.
Mais c'est possible parce que on nous explique, les agriculteurs entre autres, qu'on ne peut pas s'en passer.
C'est possible et c'est visible. Aujourd'hui, quand vous allez dans les jardins de Versailles, vous allez découvrir 350 000 arbres, des centaines de milliers de fleurs qui n'ont pas reçu une goutte de pesticides, qui sont belles et qui sont heureuses de ne pas être polluées. Nous avons créé il y a quelques années un potager, le potager de la Reine, qui fournit l'un des plus grands chefs cuisiniers du monde. Pas une goutte de produit, même pas un mélange de type huile douteuse ou quoi que ce soit, rien. Du soleil, de la patience et beaucoup d'amour. Oui, il est parfaitement possible de cultiver sans produit. Mais juste à propos de l'alimentation et du monde agricole, je n'aurais pas la prétention de dire aux agriculteurs ce qu'ils doivent faire, mais je constate que les rapports de la FAO, c'est un organisme très sérieux, dit qu'il est possible de nourrir l'humanité tout entière sans produits chimiques. Il faut maintenant penser à demain et se rappeler de cette phrase de je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait, on n'hérite pas de la terre de ses parents, on l'emprunte à nos enfants.
Mais comment on se débarrasse des bestioles, des mauvaises herbes. Alors les mauvaises herbes, on les retire à la main ?
Mais on les retire à la main, c'est très bon pour le physique. Je n'aurais peut-être pas ce ventre-là, d'ailleurs, si j'utilisais davantage la binette. Et puis, en ne mettant pas de produits, on attire les oiseaux. Les hirondelles sont revenues à Versailles. Au plus grand dam, j'en conviens, des architectes et du directeur du musée, mais les hirondelles reviennent et consomment une quantité énorme de petites bestioles. Les hérissons nous débarrassent de quantité d'animaux d'innuisibles. Donc, on laisse. La nature est parfaitement capable de s'autogérer. Elle n'a pas besoin de nous. Arrêtons de tout détruire. Pensons au futur.
Et même si on veut que ça pousse bien. Non, je dis ça parce que Franz-Olivier Gisbert, qui était à votre place la semaine dernière, a une question pour vous. Je vous propose de l'écouter.
Bonjour Alain Baraton, c'est Franz-Olivier Gisbert. J'ai beaucoup d'admiration pour vous et il y a une question là, j'ai vraiment envie de vous poser parce que j'adore les tomates russes, les tomates du Caucase, vous savez ces grosses tomates steak là qui peuvent faire parfois 1,5 kg. Et j'arrive pas à en faire des très très grosses. Quel est le secret? Parce que ça s'arrête toujours au bout d'un certain temps. Je dis pas qu'elles sont petites parce qu'elles sont quand même grosses mes tomates, mais elles sont pas aussi grosses que celles que je peux acheter dans le commerce. Que faire?
Alors, vous faites quoi pour les tomates de Fogg, Alain Baraton ?
Eh bien, je prendrai un manuel pour savoir comment on cultive la tomate et comment faire en sorte pour la faire grossir. Nous, en France, on a une variété merveilleuse, la Marmande. Pas la peine d'aller en Russie choisir de la noire de Crimée ou une autre variété. Nous avons de très bonnes tomates.
La Marmande aussi, ça peut faire un kilo ?
Il faut ça, mais bien sûr, il faut simplement pincer. Mais la question est la suivante. Que préférez-vous ? Avoir beaucoup de fruits sur un pied, mais de petites dimensions, ou moins de tomates, mais de plus grosses dimensions. Donc, en limitant le nombre de tomates sur un pied, on augmente la tomate restante.
Voilà.
J'espère avoir été clair.
Je pense et je suis certain que Franz-Olivier Gisbert, à l'écoute, est déjà en train de pincer, puisque c'est ça ce qu'il faut faire.
Tout à fait. On pince, on supprime et on empêche, bien entendu, le pied de produire trop de tomates. Mais on se rappelle qu'effectivement, les grosses tomates ont l'avantage d'être farcies. La tomate farcie est une petite merveille.
En parlant de ce qui pousse vite, je rappelle que à 19 ans, en 76, après avoir été caissier du parking pour un job d'été, vous entrez au domaine de Versailles en tant qu'aide-jardinier stagiaire. En 82, vous êtes jardinier en chef, vous avez 24 ans, vous avez une cinquantaine de jardiniers sous vos ordres. Qu'est-ce qui vous est arrivé pendant ces 3 ans ?
La passion, je me suis marié, j'ai fait mon service militaire, je suis devenu papa, et j'ai pensé qu'il y avait un temps pour tout, la rêvasserie, c'était pour plus tard. Je me suis présenté à tous les concours possibles et inimaginables, mais je suis surtout tombé amoureux des arbres, et j'ai été épaulé par les anciens. Tous ces jardiniers qui n'avaient pas d'éducation, qui n'avaient pas d'instruction, qui aimaient la terre, et ils ont été capables de me communiquer leur bon sens. Et je crois que je ne serais rien si je n'avais pas été épaulé par ces gens qui, eux, avaient vraiment, vraiment du bon sens.
Allez, on va marquer une courte pause. Alain Baraton, peut-être avec une petite rose en fond sonore, celle de Françoise Hardy. Et on vous retrouve dans un instant.
La rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie. Heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille.
Le journal inattendu d'Alain Baraton avec Vincent Parisot sur RTL.
Fiat.
Le journal inattendu sur RTL avec Alain Baraton et Vincent Parisot.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos pères déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris.
Voilà. Évidemment, on déambulera dans les rues de Paris. Barbara, quand reviendras-tu ? Vous aimez les chansons tristes ?
C'est, hein, pas triste, c'est beau.
Ouais.
C'est beau, c'est magnifique. Mmh. Quand reviendras-tu ? C'est un appel, c'est un espoir, c'est magnifique. Je vous avoue une petite chose.
Ouais.
J'avais pensé également à une autre chanson, mais de Elton John. Et mon anglais étant ce qu'il est, j'ai préféré m'abstenir.
Et choisir Barbara, qui habitait près du square des Batignolles, dont elle parle dans la chanson Perlimpinpin.
Eh oui, ce petit jardin de Perlimpinpin. Il y a d'ailleurs un jardin pour les enfants, voilà, dans le square des Batignolles.
Alain Baraton, Mes Jardins de Paris, le livre est sorti mercredi chez Grasset. On a quelqu'un au téléphone, quelqu'un que tout le monde connaît, que les auditeurs d'RTL adorent et que vous connaissez, vous allez comprendre, vous la connaissez depuis 40 ans, avant que vous soyez jardinier en chef du parc du château de Versailles. Ici, je vous dis que dans son jardin, il y a un arbre, un cèdre du Liban, offert par Michel Audiard.
Ah, là je vois.
Vous avez compris.
Non.
Si, elle est là. Bonjour Line Renaud.
Bonjour. Bonjour Alain.
Bonjour Line.
Sont magnifiques.
Eh oui. Alors, Lynn est une grande cachotière car j'étais chez elle il y a quelques jours à peine.
Et vous ne l'avez pas dit.
Et nous conversions autour des surphinias qui sont les fleurs préférées de Lynn Renaud. Ouais. Elle adore cette fleur et je me fais un devoir depuis 40 ans à lui offrir sa fleur préférée. Lynn est une femme exceptionnelle. Et si j'ai 30 secondes, je vais raconter une petite anecdote.
Oui, allez-y.
En 1999, il y a la tempête qui fait les dégâts que l'on sait. Oui. On a appelé Lynn Renaud pour qu'elle nous aide à communiquer autour de l'événement. Et la première à être venue planter un arbre, c'est Lynn Renaud devant les caméras du monde entier.
Oh, c'est incroyable. Oui. Et alors ce jardin, il est magnifique. Le jardin, il est magnifique, votre jardin, Lynn. Je crois qu'il y a un séquoia.
Le jardin est exceptionnel, ouais, vraiment. Et c'est Alain qui a fait tout ça. Mmh. Il s'est occupé pour que les oliviers, les palmiers, les lavandes, le sol pleureur.
Mmh. Oh, Lynn, je n'ai fait que
le cèdre du Liban.
Voilà.
J'ai même un chirurgien, le cèdre du Liban. En 99, quand il y a eu la tempête, cet arbre était magnifique. Il m'avait été offert par Michel Audiard. C'était vraiment le roi du jardin. Mmh. Il était tombeur, il était malade. Et Alain l'a complètement redonné vie.
Mmh. Oh.
Et il est splendide.
Oui, mais souvenez-vous également, Lynn, du bosquet de bambou que nous avions planté avec Loulou. Mmh. Loulou qui disait, grâce à toi Alain, je tiens la vie par le bambou.
Loulou Gasté, évidemment. Il y a un séquoia qui a mon âge. Il a été planté en 1964, c'est ça ?
En 64, le séquoia, oui. Mmh. Il faisait 15 cm maintenant. Et il n'arrête pas de grimper. Il fait plusieurs Il fait près de 40 mètres maintenant, oui.
Mais ce qui est beau dans le jardin de Lynn Renault, c'est que ce n'est pas un jardin d'EHPAD, c'est un jardin de plaisir. Je sais que Lynn prend plaisir, depuis les fenêtres de sa chambre, à le contempler. Chaque plante, chaque fleur, chaque herbe lui raconte un personnage, ouais. Lui ramène quelques souvenirs. On voit les chiens qui galopent joyeusement. C'est un jardin familial. Quand on va chez Lynn Renault, on est reçu de manière tellement merveilleuse que tout est merveilleux.
Quelque chose me dit, Lynn Renault, quelque chose me dit que vous aimez les roses. Vous avez 3000 pieds de roses dans votre jardin.
3000 pieds de roses à la maison. Les roses viennent de la roseraie de Jean-Claude Boucreux. Mais Alain m'a aidé à les exposer, à les mettre, installer comme il fallait dans le jardin.
Mais j'espère que vous avez des roses qui portent votre nom, la rose Lynn Renault.
C'est curieux, deux fois on a été les planter, deux fois elles sont mortes.
Ah,
les roses Lynn Renault ne poussent pas chez Lynn Renault.
Et pourtant, c'est l'une des roses les plus primées au monde.
C'est magnifique, merci
elles
beaucoup.
Elles ont reçu 5 prix, elles sont magnifiques. Mais tu oublies de dire, Alain, que le 20 mars 2000, j'ai planté à Versailles.
Un arbre. Mais oui, tout à fait. Oui.
Voilà, après la tempête de 99, oui. On l'a dit, Lynn Renault, et il vous en est très reconnaissant, oui. de cet arbre planté. Merci beaucoup, Lynn.
Merci,
je
Lynn.
Précise qu'on va bientôt vous voir sur France 3 parce que vous allez tourner un téléfilm, Meurtre.
Quand j'étais en Amérique, oui. C'est Loulou qui présentait d'autres plantes à Alain.
Ouais. Ouais. Parce que vous étiez très lié à Loulou.
Très proche de Loulou Gastier.
On vous embrasse très fort, Lynn. Vraiment, on vous embrasse très fort. Merci beaucoup.
Des tonnes de baisers, Lynn.
Merci.
Merci beaucoup. Et merci à vous, Alain Baraton. On va aller se balader dans Paris, mes jardins de Paris, chez Grasset. C'était un pur bonheur de vous recevoir.
Ce fut un pur bonheur d'être avec vous. Merci infiniment pour votre invitation.
Et dans un instant, ce sera Confidentiel. Jean-Alphonse Richard avec un certain Clint Eastwood.
RTL, le journal inattendu.